Philosophie de l'art par le père Philippe à Saint-Joseph, le 1er février 85.
Que l'inspiration artistique comme telle est au-delà du point de vue moral, accepteriez-vous que Godard vous dise que l'inspiration qui l'a conduite a produit son dernier film est en soi ni bonne ni mauvaise, hors de tout point de vue moral? C'est un très gros cas, cette question-là, c'est Godard. Je voudrais voir la manière dont il a été jugé. Ce serait très intéressant. J'ai demandé, du reste, je connais un avocat qui peut me le donner, un juge à Paris. Ça m'intéressera de voir exactement quels sont les motifs. Parce qu'il a été acquitté, disons. Il y a eu une accusation, et puis il a été acquitté, c'était lundi. J'étais à Paris à ce moment-là, alors tout le monde en parlait. Et c'est évident que ça pose un très gros problème. C'est une transposition, vous voyez, pour lui dans sa perspective. Je crois qu'il est sincère. Je crois, je n'ai pas le droit de ne pas le dire, quand lui il dit qu'il est sincère, je n'ai pas le droit de dire qu'il n'est pas sincère. Alors, ça pose de très très gros problèmes. Nous y viendrons, cette question-là. La question du point de vue l'art et la morale, c'est du reste souvent très mal posé. C'est très mal posé. Moi, je crois qu'on ne doit pas dire art et morale. On doit dire le point de vue art et le point de vue humain, et non pas morale. C'est-à-dire que c'est par le point de vue de la finalité qu'on doit le poser. La finalité du point de vue humain. Parce que si on pose point de vue art et morale, on a toujours l'opposition entre art et prudence. Et alors, art et prudence, ça va très mal. Hein. L'art n'est pas prudent. Heureusement, il n'existerait plus. Donc, il ne peut pas être prudent. L'art est en dehors du point de vue. Alors, toute la question, c'est de savoir, étant donné le contexte dans lequel ceci se pose, si on scandalise ou non. Un film peut être en lui-même très beau, et il peut être tout à fait anormal de le mettre en public. Parce qu'il peut scandaliser. Scandaliser au sens fort, pas le scandale, scandaliser au sens fort, c'est-à-dire ébranler le point de vue profond de la finalité de l'homme. Et c'est du côté de la finalité que je le prendrai. Parce qu'un art doit être humain. Mais alors, voyez, c'est là le point de vue très délicat, c'est les diverses finalités du point de vue humain. Un art doit être humain. Autrement, s'il n'est plus humain, il se tue lui-même. Puisque l'artiste est un homme. Donc il doit rester humain. Mais quand je dis humain, je ne dis pas moral. C'est ça la différence. Hein. Parce que si on prend l'opposition entre le point de vue... Je me souviens, ça, quand j'avais un peu écrit ces choses-là, j'avais écrit à droite et à gauche des gens que je connaissais pour le problème du point de vue art et moral. Ce sont des problèmes tellement difficiles et souvent très mal posés. Et je voyais, j'ai toujours remarqué que tous sont posés art et prudence, ce qui est très faux. Donc il faut le prendre par la finalité. Alors, la question qui se pose ici. Godard, lui, dit « j'ai le droit de transposer ». J'ai le droit de transposer. Nous n'avons aucune espèce d'inconvénient de transposer un mythe grec. Prenez le mythe de Prométhée. J'ai parfaitement le droit de transposer le mythe de Prométhée dans le monde d'aujourd'hui. Personne ne dirait rien. C'est un mythe. Un mythe poétique peut être transposé. Il y a quelque chose de très grand. Transposer, du reste, on l'a fait, on le fait plus ou moins, et on comprend très bien. J'ai le droit de transposer tout le théâtre d'Eschyle dans le monde d'aujourd'hui. Parce que c'est au fond propre, justement, de l'art de retrouver une symbolique différente dans une sensibilité différente. Alors, la symbolique de la Vierge. d'une Vierge Mère de Dieu, la symbolique de l'archange Gabriel. Oui, je parle en artiste, hein, symbolique de l'archange Gabriel. Comment pouvons-nous transposer ça? Alors, c'est le point, moi, du moins, c'est ce que j'aurais dit, je ne sais pas comment ça a été présenté, mais c'est intéressant d'y penser. Et c'est très intéressant parce que d'abord on le vit, on rencontre des gens qui sont plus ou moins sensibilisés à ça, certains sont scandalisés de ce qu'a dit le prêtre, je ne sais plus comment il s'appelle, et qui était chargé de ça, on dit « c'est pas blasphématoire ». Il est parti de ce point de vue-là. « C'est pas blasphématoire, ce qui a été fait, c'est peut-être, ça peut heurter la sensibilité des gens, la piété des gens, mais c'est pas blasphématoire ». La question de savoir qu'est-ce que c'est que blasphématoire. Alors, je crois que la question, c'est la différence entre un mythe. Je comprends que Godard comprenne ça comme un mythe, forcément. Mais pour les chrétiens, c'est pas un mythe. Alors, c'est là où le chrétien, comme notre culture est une culture enracinée d'un point de vue chrétien. Alors, comme notre culture est une culture chrétienne, jusqu'où pouvons-nous toucher certains aspects de notre culture chrétienne et dire qu'on a le droit de les transposer comme on veut? Oui, c'est pour moi, c'est ça que je toucherai. Alors, est-ce que nous considérons encore que notre culture est une culture chrétienne? Et pour moi, c'est la signification de ce film. Ou est-ce qu'on considère que notre culture n'est plus une culture chrétienne? Une culture qui est religieuse, si vous voulez, même plus. Bon, on est en face d'une culture où on peut pratiquement, le tout, c'est de ne pas aller contre une morale élémentaire et ne pas aller plus, ne pas choquer plus. Vous voyez, alors le problème est très délicat, c'est très difficile. Moi, c'est pour ça que ça m'intéresserait de voir comment le juge traite la question. Et c'est intéressant, ça vaut la peine. On pourrait, si vous voulez, une fois qu'on aura la question, faire une espèce de un petit séminaire particulier là-dessus, parce que je crois que c'est intéressant de. On vit ces choses-là. Nous devons essayer de les comprendre, parce que c'est important de les comprendre, on n'a pas le droit de ne pas les comprendre. On doit essayer de saisir ce que ça signifie dans notre monde d'aujourd'hui. Alors, c'est évident que ça fait beaucoup de bruit. On est un petit peu en dehors de ce bruit. Ici, heureusement, ça vaut la peine d'être passionné par la chose, mais on doit comprendre que ça fait du bruit. Le maire de Versailles a interdit le film. Avait-il raison de le faire? N'avait-il pas raison de le faire? Ce serait intéressant de se poser la question. Parce que le maire de Versailles pouvait nous poser la question. Je n'ai pas été le théologien qui a posé la question. Mais si j'avais été le théologien, qu'est-ce que j'aurais dit? Il aurait dit d'abord, allez voir le film, première chose. Lui, il l'a vu. Et il l'a fait sûrement en demandant conseil à quelqu'un, du moins, je présume. Parce que c'est trop grave. Et alors c'est ces rapports de la question de la culture, parce que c'est la finalité de l'homme. Hein. Moi je crois que c'est la finalité qu'on touche. C'est pas le point de vue moral proprement dit, mais au-delà de la morale, il y a la finalité. Alors quand ça touche à la finalité, que ça ébranle certains aspects de la finalité, alors on peut dire attention. Parce qu'à ce moment-là, la porte est ouverte à n'importe quoi. Mais je ne veux pas traiter ici pour ou contre, j'attends de voir un peu comment ça s'est traité. Et il faut y réfléchir. Vous voyez ? Alors, penser à la question, pour moi, c'est comme ça que ça se pose. Hein ? Alors, c'est la question de l'inspiration. L'inspiration, comme telle, est au-delà du point de vue moral. Alors ça, je l'affirme, et il faut l'affirmer complètement. Hein ? C'est l'inspiration à quelque chose de sui generis, en dehors du point de vue moral. Autrement dit, ce que nous allons essayer de voir progressivement, l'inspiration, c'est l'intelligence liée à l'imagination, liée à la sensibilité, ordonnée à une œuvre. l'intelligence est liée à l'affectivité, c'est évident, mais ce n'est pas l'affectivité liée à la finalité humaine. C'est une autre finalité. C'est une œuvre qui, comme telle, est la réalisation de quelque chose. Une œuvre qui demande une expression. Une expression qui élève, qui ennoblit, qui purifie, c'est tout le propre d'une œuvre. Une œuvre, qu'est-ce que c'est qu'une œuvre artistique? Y a-t-il des critères, non pas de beauté, hein, parce que si on était au XVIIe siècle, on mettrait des critères de beauté. Ne mettons plus des critères de beauté, et on a raison, le canon de beauté, je crois que c'est très difficile. C'est une expression humaine. Moi, je mettrais ça. Une expression qui reste humaine. Mais humain, comprenons bien, ce n'est pas uniquement moral. L'homme est plus que l'aspect moral. L'aspect moral est en vue de l'épanouissement plénier de l'homme. Et quand je dis humain, je dis la finalité de l'homme. Et la finalité de l'homme, elle est double. Elle implique l'amitié. Elle implique la contemplation. Ça, je crois qu'on ne peut pas en sortir autrement. Même si l'artiste n'y pense pas du tout, hein, ça c'est autre chose. On lui demande d'être humain, dans le sens profond. Humain pour épanouir, développer toutes les virtualités qui sont dans le cœur et l'intelligence de l'homme. Et alors ça ne peut pas être en opposition, en contradiction, avec un développement amitié au sens très très ample, hein. L'homme dans sa communication affective aimante. C'est ça, quelque chose qui brille. Vous voyez, quelque chose qui brise l'humain. Est anti-humain. Une œuvre qui est anti-humaine, a-t-on le droit de la laisser passer? Quand j'ai dit anti-humaine, vous voyez, ça peut être quelque chose qui manifeste le drame de l'homme. Manifester le drame de l'homme, c'est pas anti-humain. Manifester la violence qu'il y a dans le cœur de l'homme, hein, c'est pas anti-humain. Ça reste humain, mais ça ne conclut pas une conclusion morale. Hein. L'homme n'a pas à conclure une conclusion morale. Tu seras puni parce que tu as mal agi. Non, ça c'est pas moral. Ça c'est moral, mais c'est pas l'œuvre qui doit faire ça. Elle doit rester humaine. En laissant l'homme dans toute sa dimension d'amitié et de contemplation. Je crois que c'est le seul critère que nous pouvons prendre. Donc ce n'est pas le critère de la prudence, c'est le critère de la finalité. Et il me semble ça. Ça, c'est une chose qui serait très importante à discuter. Parce que c'est une chose difficile et qui va se reposer de plus en plus. Hein. Ça, c'est bien évident. Et je dirais que c'est forcé, ça va se poser de plus en plus. Alors, vous voyez, quand je mets contemplation, il y a l'aspect religieux. Là, il y a l'être religieux. Je n'ai pas le droit de faire une chose anti-religieuse, qui brise le point de vue religieux. Mais j'ai le droit de faire des choses qui montrent le drame religieux, les oppositions violentes qu'il peut y avoir. Ça, c'est très très différent. Mais je n'ai pas le droit de mépriser, du reste, ce n'est pas le cas. C'est une transposition. Évidemment, nous n'aurions pas fait de transposition de cette manière-là, mais c'est une transposition de quelque chose d'assez particulier. C'est évident, quand vous voyez Joseph dans une autre attitude que vous l'imaginez d'habitude, vous voyez. Donc l'inspiration de l'imagination vous donne quelque chose de tout à fait différent. Mais ça peut se comprendre, c'est pas du tout. Il faut essayer de saisir le point de vue de l'inspiration au-delà du point de vue moral, qui ne peut pas être anti-religieux, mais le point de vue religieux, ce n'est pas la dévotion. C'est autre chose. Parce que vous pouvez avoir des chaînes purement de dévotion. Et des chaînes de purement de dévotion, c'est Saint-Sulpice. C'est évident que ça peut être très... Saint-Sulpice peut être aussi anti-religieux que des choses qui nous dépaysent complètement. Parce que je ne trouve pas que Saint-Sulpice, c'est religieux. C'est la dévotion, mais c'est l'aspect religieux va beaucoup plus loin. Heureusement. C'est autre chose, surtout la contemplation. L'aspect contemplatif. Je ne dis pas la dévotion. La dévotion, c'est au niveau moral. Tandis que je prends exprès la contemplation et la contemplation religieuse. Ça pose un tas de problèmes. Alors, je crois qu'il faut maintenir, puisque ici nous ne regardons que quelques aspects du principe, nous maintenons que l'inspiration comme telle est indépendante du point de vue moral. Parce que elle est radicalement humaine. Et ce qui est radicalement humain est au-delà du point de vue moral. Vous comprenez ? L'amour comme tel est au-delà du point de vue moral. Ça ne veut pas dire que l'amour peut être immoral. Comprenez bien. L'amour est au-delà puisqu'il fonde la morale. Le fondement de la morale est dans l'homme. Puisque le fondement de la morale est dans l'homme, l'homme est donc plus que le moral. C'est sûr. Il est appelé à la sagesse. Et la sagesse est plus que le point de vue moral. Et il est appelé à la contemplation. Et la contemplation est plus que l'aspect moral. C'est le point de vue du développement de l'intelligence. Et l'art est du côté du développement de l'intelligence. Tandis que la morale, au sens strict, c'est de l'intention vis-à-vis de la finalité. La morale n'existe qu'au niveau de la finalité. Or, au-delà de la finalité, il y a le bien. Le bien fonde le point de vue de la fin. Et l'amour fonde l'intention. Alors, la morale, c'est l'intention. Un être moral, c'est un être d'intention. Ne demandons pas à l'inspiration d'être au niveau de l'intention morale. C'est autre chose. C'est ce que nous allons essayer de comprendre. C'est autre chose. C'est un autre domaine. Et c'est un domaine qui reste humain. Et je ne dis pas seulement de l'homme. Je dis humain. C'est là la difficulté. Mais parce qu'au fond, facilement, la scolastique aurait dit, le point de vue de l'art, c'est le domaine de l'homme. Et le fricaré barbam des scolastiques, toutes les questions instinctives que nous avons, c'est de l'homme, c'est pas moral. Le point de vue artistique reste humain. Et pas seulement de l'homme. C'est peut-être là le point de vue sur lequel on serait en face de certains artistes d'aujourd'hui qui diraient « Ah non, c'est même pas humain. C'est de l'homme. Ça provient de l'homme et l'homme fait ce qu'il veut. » Ah non. L'homme n'a pas le droit d'être un animal furieux qui détruit l'homme. Alors, il peut détruire l'homme par l'art. Et quand il détruit l'homme par l'art, je crois que ce n'est plus de l'art. Mais ça peut avoir des moments merveilleux de beauté. C'est tout à fait différent. Mais ça détruit. Si ça détruit, je ne crois plus que c'est vraiment un art humain. Et donc, c'est à ce moment-là, il peut y avoir, et le point de vue politique, au grand sens, doit veiller que l'art ne soit pas politique, ne soit pas religieux, ne soit pas moral, mais reste humain. La frontière est difficile, très difficile à préciser. Et pour ça, un cas comme celui-là, parce qu'il est sûrement frontière, c'est un cas très frontière, celui-là. Alors, ce serait intéressant, on verra si ça peut vous intéresser, et d'y réfléchir vous-même, parce que c'est une chose sur laquelle il faut réfléchir, avoir un petit dossier là-dessus. Dans la mesure où on peut avoir un petit dossier sur ce domaine-là, ce sera intéressant d'essayer de comprendre le point de vue de droite et de gauche. Parce que tout le temps, quand c'est comme ça, vous retrouvez une politique de droite, une politique de gauche. Alors il faut être au-delà de la politique de droite, au-delà de la politique de gauche, pour réfléchir au plan humain, c'est-à-dire au plan philosophique, parce que c'est ça qui nous intéresse. Essayez de comprendre cela. Alors, vous voyez, je reviens. Donc, le point de vue de l'inspiration, comme nous allons voir, est lui-même en dehors du point de vue moral. Il reste humain. C'est l'homme. C'est l'homme qui est inspiré. Et l'inspiration fait... fait développer dans l'homme une dimension qui n'est pas développée par le point de vue moral. C'est pour ça qu'un homme purement moral sera vite scandalisé. Ça existe, hein. Il y a des gens qui identifient l'homme et la morale. Ça, c'est pas tout à fait juste, philosophiquement. N'est-ce pas ? Si vous identifiez l'homme et la morale, vous êtes scandalisé. Vous êtes dit, comment ça peut sortir de lui ? Ça sort de l'homme. Et c'est beau, et c'est grand. Et c'est l'homme. Ça a une certaine grandeur. Ça reste humain. Ça vient de l'homme, et ça reste humain. Mais pas la même finalité que le point de vue moral. C'est deux choses différentes. Et l'homme contient en lui cela. Parce que si vous ramenez l'homme uniquement à l'aspect moral, il n'y a plus de philosophie. Il n'y a plus de philosophie, vous n'avez plus que la dévotion. Il n'y a plus de contemplation. Et il n'y a plus de métaphysique. C'est bien évident. Il n'y a plus de métaphysique. On dira la métaphysique, c'est dangereux. C'est très dangereux. Parce que ça fait comprendre que l'homme est au-delà de la morale. C'est très dangereux. Il y a des choses les plus dangereuses qui soient. C'est de faire comprendre qu'il y a dans l'homme une dimension qui est au-dessus de ce point de vue-là. Donc, c'est quelque chose qui est dangereux sous ce point de vue-là. C'est vrai, mais ça permet de comprendre que dans l'homme, il y a deux aspects, ce développement de l'inspiration que nous allons essayer de comprendre et le développement de l'intention morale. Ce sont deux frères jumeaux qui facilement sont en opposition l'un par rapport à l'autre. Ce sont deux frères jumeaux, c'est vrai. L'agir, l'agire et le facere. L'agire et le facere, c'est deux développements de l'homme. Alors, il y a cette question-là de découvrir que, à partir de l'inspiration, vous avez tout un développement humain qui reste un développement humain sui generis. Puis vous avez l'autre question, la question politique. Peut-on livrer au public telle ou telle œuvre, qui peut être une œuvre d'art, mais est-ce que on doit la livrer au point de vue politique? Alors là, il y a une prudence. Vous voyez? C'est la prudence politique. C'est deux choses tout à fait différentes. C'est la question de l'usage de l'œuvre d'art. La question de l'usage de l'œuvre d'art, c'est deux choses différentes. Ça, c'est le point de vue politique. Est-ce qu'il faut, est-ce qu'il est bon de livrer telle ou telle chose? C'est pour ça qu'on, vous voyez, pour les films, on met pour tel âge, au point de vue politique. On sait très bien que dans le monde d'aujourd'hui, ça ne signifie pas grand-chose, parce que ça fait quelquefois juste l'inverse. Mais au fond, c'est le point de vue de la prudence. Alors, comme on sait que ça n'a plus beaucoup de sens aujourd'hui, la prudence politique doit intervenir. Donc je crois qu'il y a deux problèmes distincts. Le problème de l'œuvre d'art en elle-même. Il faut laisser à l'artiste sa liberté d'artiste. Il est un loup, comparativement au chien, hein, la fable de La Fontaine, hein, n'oubliez jamais. Il est un loup et il a sa liberté d'artiste. Et puis il y a la question de l'usage de l'œuvre d'art. Et la question de l'usage de l'œuvre d'art relève d'une prudence politique. Prudence familiale et prudence politique. Alors, je crois que le procès se situe au niveau de la prudence politique. Ça ne peut exister qu'à ce niveau-là. Et non pas au niveau de l'œuvre comme telle. Ça, c'est différent. Mais au niveau de la prudence politique. Question de l'usage. Alors continuons, je ne traite pas ça tout de suite, parce que c'est trop complexe pour le traiter maintenant. Essayons de comprendre, hein, qu'est-ce que représente le point de vue de l'inspiration comme tel. Après avoir vu cette petite topique rapide, essayons de comprendre. Alors je crois qu'on doit d'abord saisir que l'inspiration se présente à nous. C'est la première chose. Comme une source. Ça, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. C'est une source. C'est un jaillissement. C'est donc quelque chose qui apparaît comme le point de départ de tout un développement de la vie humaine. Tout un développement de la vie humaine de l'homme, de l'artiste, comme tel. C'est une source. C'est une source qui apparaît comme mettant une certaine séparation avec le déjà vu. C'est ça qui me semble très important. C'est la différence avec l'expérience. L'expérience, chaque expérience a quelque chose d'unique, mais l'expérience peut nous faire vivre quelque chose, mais oui, nous l'avons déjà vu, mais nous le revoyons autrement. Et c'est là où l'homme vit, et quand un jour où il vit, même si c'est du déjà vu, c'est toujours vu autrement. Parce que nous vivons chaque jour d'une façon unique. Mais lorsqu'il s'agit de l'inspiration, ce n'est pas du déjà vu. C'est toujours quelque chose d'inédit, quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui est un dépassement par rapport à tout ce qui est antérieur. C'est en ce sens que c'est une véritable source. Parce que je crois que quand c'est déjà vu, ce n'est pas une source. Bon, ce sont des points de vue qu'on peut préciser. Je crois que tout le monde peut être d'accord là-dessus. C'est le point de vue particulier. Ce qui est très délicat, c'est que l'inspiration apparaît comme une connaissance. C'est une connaissance. Connaissance d'un type particulier, qui n'est pas l'expérience, qui n'est pas la contemplation. L'expérience et la contemplation portent sur des choses qui peuvent être déjà vues. Je peux contempler indéfiniment un très beau tableau. C'est du déjà vu et c'est jamais vu. C'est le propre du dépassement de la contemplation et de l'expérience. Tandis que l'inspiration a ce site particulier, c'est qu'il y a un choc intérieur qui fait qu'on est au-delà du déjà vu. Mais c'est une connaissance. Si c'est une connaissance, je ne peux préciser ce qu'est cette connaissance qu'en essayant de voir sur quoi elle porte. Et c'est là toute la difficulté. Tant que je ne vois pas sur quoi porte l'inspiration, je ne peux pas savoir ce que c'est. L'analyse d'une connaissance se fait toujours par le point de vue de l'objet du sujet, toute connaissance. Or, quand il s'agit de l'inspiration, cette analyse de l'objet et du sujet est tout autre que dans toutes les autres connaissances. Autrement dit, c'est une source, et j'allais presque dire, c'est une source de la connaissance. Je ne dis pas que c'est une source de la connaissance et que toute connaissance doit passer par là, mais il y a quelque chose de très spécial dans l'inspiration, c'est qu'elle se donne à elle-même son objet. Ce n'est pas un regard sur quelque chose qui existe, comme une connaissance habituelle où on connaît une réalité. Autrement dit, le jugement d'existence ici n'est pas premier. La fameuse parole d'Aristote, hein, c'est d'abord se demander ceci existe-t-il ? Puis, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce ? Pour Aristote, ceci est premier, ceci est second. Et je vous ai déjà dit, Descartes, et c'est le moment très important où Descartes dit, eh bien c'est l'inverse. Le diesti est avant l'esti. Ça, il faut se rappeler, c'est quelque chose de très très simple et très important. Quand j'analyse une connaissance, type aristotélicien, quand j'analyse une connaissance, habituellement, je me pose la question, est-ce que ça existe ? Puis après, qu'est-ce que c'est ? Quand il s'agit de l'inspiration, puis-je employer la même formule ? Non. L'inspiration porte sur quelque chose où je ne peux pas me poser, est-ce que ça existe ? Puisque si ça existe, c'est du déjà vu. C'est donc quelque chose qui est vraiment source au sens très très fort, c'est-à-dire quelque chose qui provient de moi, qui provient de l'artiste, et donc n'a pas d'objet antérieur à la connaissance. Nous sommes donc en présence de ce que Kant appelle la subjectivité transcendantale. Et la subjectivité transcendantale de Kant est juste pour l'inspiration. Il y a toujours quelque chose de juste dans Kant. Hein. Ça, c'est pour rassurer les Kantiens. Il y a quelque chose de juste du côté artistique. Du côté artistique, il y a quelque chose de juste, la subjectivité transcendantale. Dans l'inspiration, c'est le sujet qui se donne l'objet. C'est le propre de l'inspiration. Autrement, il n'y aura pas d'inspiration. Et donc, dans l'inspiration, le diesti est antérieur à esti. Et le tiesti a ceci de très particulier, qu'il provient même de l'artiste. Il se donne à lui-même son objet. Il se donne à lui-même sa propre connaissance. C'est lui qui est inspiré. C'est lui qui est source. Il se donne à lui-même ce point de vue de l'inspiration. C'est-à-dire, il découvre quelque chose qui provient de lui. Découvre quelque chose qui provient de lui, qui provient de sa propre connaissance. Je crois que c'est le propre de l'inspiration. Alors, qu'est-ce que ça peut être en termes philosophiques? L'inspiration ne peut donc porter que sur quelque chose qui est le possible. Ce n'est pas quelque chose qui existe, c'est le possible. C'est une idée qui va germer à partir de là. Je ne dis pas que c'est l'idée. L'idée, pas tout de suite. Hein. L'idée va être justement quand l'inspiration va se préciser. Et l'idée ne sera donnée que dans le choix artistique. Et avant le choix, il y a cette première phase très importante du possible. L'inspiration porte sur le possible, sur quelque chose qui commence à germer. Une semence, c'est une virtualité, c'est une possibilité. C'est quelque chose que je porte qui va se développer progressivement. C'est un germe. Oui, c'est quelque chose de... C'est pour ça que je ne dis pas idée, j'aime mieux dire quelque chose qui est dans l'ordre de la possibilité. Et cette possibilité, elle provient justement de l'artiste, de son souffle artistique. C'est un souffle, c'est un pneuma. Donc c'est quelque chose qui provient de lui, qui le conduit, qui l'oriente, et qui va se préciser progressivement. Et quand il y aura un choix créateur, on sera en présence de ce qu'on pourrait appeler une idée, l'idéa artistique. Alors c'est le passage, l'inspiration sera le passage de ce possible. L'idéa va se présenter à nous comme quelque chose de nécessaire. À partir de l'inspiration, de cette possibilité, il va y avoir quelque chose de nécessaire. L'artiste, quand il est mené par son inspiration, à un moment donné, il est déterminé. C'est le choix qui se fait. Et ça s'impose. Ça s'impose à lui, et ça s'impose de l'intérieur, pas de l'extérieur. C'est ce germe qui progressivement a tout pris, a tout saisi, et ça s'impose comme nécessaire. Alors cette chose très curieuse, vous voyez, et c'est ça qui est très intéressant, si on essaie de comprendre un peu ce que représente cette source, c'est que tout ce qu'on dit habituellement en philosophie est inversé. Le sujet est avant l'objet, le possible est avant le nécessaire. Alors je dis en métaphysique juste l'inverse. Ça est extrêmement intéressant. Ce qui fait comprendre comment, si je considère l'inspiration comme la source de la philosophie, j'aurai une philosophie nécessairement inverse de la philosophie réaliste. Puisque dans la philosophie réaliste, le SST est premier et le TST est second. Ici, c'est l'inverse. Il est premier, il est vers une œuvre. C'est juste l'inverse. C'est la même chose, le possible qui va du nécessaire. D'habitude, c'est le nécessaire, c'est l'art qui fait comprendre le possible. Ici, c'est le possible qui va se nouer lui-même dans le nécessaire. On essaiera de voir comment. Mais je constate qu'une connaissance, qui est une connaissance propre comme dans l'inspiration, c'est une connaissance qui jaillit de l'intérieur. C'est une connaissance qui est quelque chose d'inédit. Et donc, où l'aspect subjectif est premier. Et cet aspect subjectif ne peut porter, puisque ça provient du sujet qui est inspiré, sur le possible. Quelque chose de possible, quelque chose. Ça ne porte pas sur l'impossible. C'est très curieux, ça porte toujours sur le possible. Le possible, dans le sens le plus général qui soit, pas le possible métaphysique, hein. Le possible artistique. Le possible artistique, c'est pas le possible métaphysique. C'est pour ça que le possible artistique porte en lui un germe de nécessité. Oui. Mais alors, si vous confondez le possible artistique et le possible métaphysique, vous aurez juste l'inverse. Il y a une espèce d'apparence de contradiction avec la philosophie, et en réalité, c'est pas du tout contradictoire. Mais je vois qu'il y a là une orientation dans l'ordre de la connaissance qui est sui generis, qui est tout à fait unique. C'est que ça porte sur un possible, et c'est pour ça que je fais appel à la subjectivité transcendantale. Très curieux, hein, et c'est pas étonnant, parce que je crois que ce qu'il y a de plus intéressant dans Kant, c'est le point de vue de la connaissance, de l'imagination, c'est son traité de l'imagination. Et c'est en réalité où Kant a quelque chose d'original, c'est le point de vue artistique. C'est très curieux parce que Kant, à première vue, c'est juste l'inverse de l'art. C'est juste l'inverse. Mais c'est peut-être à cause de ça que du côté de la connaissance, il a saisi ce primat du sujet. Et l'inspiration, c'est le primat du sujet. C'est le primat du sujet qui, de lui-même, va s'objectiver. C'est le possible qui va devenir nécessaire et qui va s'imposer. S'imposer à l'artiste au moment du choix créateur. Vous savez, cette comparaison que prend Platon, qui est très belle et qui fait très bien comprendre ça, quand il dit que l'inspiration, c'est comme quand on secoue le blé pour que les grains viennent au centre et puis tout ce qui n'est pas le grain tombe à l'extérieur. Et il fait la comparaison avec le point de vue de l'inspiration. Le possible va progressivement s'imposer comme quelque chose d'absolu. Et à ce moment-là, on ne verra plus que cela et tout le reste tombera. Et ça donnera à l'artiste, à ce moment-là, la possibilité de la réalisation. Il faut partir du nécessaire pour réaliser quelque chose. Mais ce nécessaire naît du possible. C'est pour ça qu'il y a une première phase, toujours, la propre de l'inspiration, une première phase qui semble, à première vue, mettre en dehors de tout le monde des réalités actuelles, mettre au-delà, et comme Rilke dit, il faut un moment de concentration. Le passage du possible au nécessaire, c'est ce moment de concentration, ce moment où il y a quelque chose qui, de l'intérieur, pas de l'extérieur, de l'intérieur va progressivement s'imposer. Il va s'imposer à l'artiste comme ce qui demande la réalisation. Alors, faisons attention, cette phase, ce passage possible au nécessaire, je suis obligé de voir les deux. Le possible comme tel ne peut pas se comprendre. Je le comprends dans la mesure où je suis justement ce possible conduit au nécessaire. Cette phase du possible au nécessaire, elle implique ordinairement déjà tout un aspect d'exécution, de travail. C'est à travers le travail que le possible va s'imposer de plus en plus comme nécessaire. C'est pas du tout en disant oh, « j'attends hein, », pas du tout. Il a besoin de réaliser quelque chose, il a besoin de faire quelque chose, et puis progressivement, ça va se nouer. Il y a un nœud qui va se donner dans l'idéal, et l'idéal va s'imposer. Et alors, à partir de là, l'artiste sera capable de juger lui-même ce qu'il fait. Cette phase réflexive où l'artiste est à lui-même son propre critique. Et son propre critique, c'est à partir de cet idéal qu'il possède, pas à partir du possible. Le possible ne peut pas être ce qui va mesurer. Tandis que l'idéal mesure. Et l'idéal vient déterminer le possible. Et donc donne une orientation nette et précise. Et très impérative. Quand saint Thomas dit que les voies de l'art sont des voies nécessaires, à la différence de la prudence qui est toujours dans l'aspect de la contingence, très bien comprendre la différence de tempérament au point de vue psychologique entre l'homme prudent et l'artiste. L'homme prudent, il avance un petit pas. Peut-être bien, avançons, voyons, regardons, soyons attentifs à toutes les circonstances. Tandis que l'artiste est impératif. Et c'est pour ça qu'il semblera toujours, aux yeux des autres, très orgueilleux. Parce qu'il dira de façon impérative, c'est comme ça, ça ne peut pas être autrement. Pour lui, ça s'impose. Les voies déterminées de l'art. Eh bien, les voies déterminées de l'art, c'est ce passage du possible au nécessaire. Et ça, c'est très net, hein, c'est même très curieux quand on entend les artistes eux-mêmes quand ils veulent bien parler. Et quand ils veulent bien parler sur la chose qu'ils ont fait, qu'ils ont réalisée, c'est quelque chose qui s'impose d'une façon catégorique. Vous voyez, Claudel disait, parce qu'il aimait lui parler, alors on pouvait l'écouter, et Claudel disait, lui, je n'ai subi aucune influence. Alors, je me souviens quand il a sorti ça à Fribourg, parce qu'on l'interrogeait, on le poussait un peu, moi je voulais qu'il dise jusqu'au bout ce qu'il portait en lui. Alors, je n'ai subi aucune influence. Je veux dire, quelle horreur. Quelle horreur. Mais pas du tout. C'est nécessaire. C'est le passage du possible au nécessaire. Et ce possible et ce nécessaire, c'est quelque chose qui s'impose. Donnez des conseils à un artiste. Vous verrez, hein, ne faites surtout pas. Parce que vous recevrez de lui hein, des gifles. Il n'en a pas besoin de conseils. Parce que c'est le possible qui doit s'imposer du dedans nécessaire. Mais ceci est vrai pour l'art. Et c'est vrai pour toute activité artistique. Pour toute activité artistique, quelqu'un qui connaît son métier, il connaît son métier. Et il peut avoir à ce moment-là des inspirations dans l'ordre mécanique. Et si vous lui donnez des conseils, il vous mettra les outils dans les mains, allez-y. Après, vous donnerez conseil. Et il a raison. Parce que l'artiste a quelque chose d'impératif. Et c'est là on voit très bien que ça fait quelque chose de tout à fait différent par rapport à l'homme moral, l'homme prudent. C'est juste inverse. C'est pour ça que quand on dit que la morale, que le point de vue de l'inspiration doit être selon la prudence, on tue l'inspiration. L'inspiration a sa ligne très impérative, et sa ligne très impérative, c'est justement d'aller jusqu'à la nécessité. L'homme prudent, l'homme de gouvernement est un homme prudent. Il ne faut jamais mettre un artiste à la tête d'un gouvernement. Jamais, c'est la fin de tout. Et c'est pour ça que ça fait des heurts entre l'homme artiste et l'homme prudent. Ça ne peut pas être autrement. Et c'est très intéressant de voir les étincelles qui se font entre les deux. Parce que vous voyez que l'artiste, lui, a quelque chose de très impératif. Il a une œuvre particulière. Tandis que l'homme prudent regarde le bonheur de l'homme. Donc c'est complexe. On va essayer de préciser ça la fois prochaine essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que ce poids-ci. Je crois que c'est la seule manière de préciser ce que c'est que l'inspiration, c'est d'essayer de comprendre justement ce qu'il y a de propre dans cette connaissance où l'objet est donné à partir même de l'inspiration. L'inspiration est source d'objet, source de détermination, et ça ne vient pas de l'extérieur. Jésus le Fils.